SBS Radio.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS French.
Vous écoutez le programme en français de Radio SBS.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 4 avril. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal, le magazine des sports, l'actualité des 7 derniers jours en Afrique et Europa Voice, exceptionnellement ce jeudi, sur le Brexit, une crise interne en Grande-Bretagne ou bien est-ce une crise européenne? C'est la question du jour. Il est 13h, c'est l'heure du journal. D'abord, les grands titres de ce jeudi. Les travaillistes en Australie se préparent à présenter leur budget alternatif pour 2019 et ce sera ce soir. Les responsables des réseaux des médias sociaux risquent l'emprisonnement en Australie si la diffusion d'attaques terroristes se poursuit sur le web. Le Brexit et la rencontre entre la première ministre britannique Theresa May et le chef de l'opposition Jeremy Corbyn pour une solution à la crise. En Australie, le Parti travailliste présentera son budget alternatif ce soir. L'opposition promet un allègement fiscal accru aux travailleurs à faible revenu. Les travaillistes ont également promis une politique plus agressive pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions dont le coût sera indiqué dans le budget ce soir. Tania Plibersek, leader adjointe de l'opposition, a déclaré sur l'ABC que le soutien aux personnes à faible revenu constituerait une priorité importante des travaillistes.
Labor, of course, committed to bigger, fairer tax cuts after the last budget. We were happy that the government increased some of the tax benefits to low and middle income earners in their budget this time. They've basically matched Labor. But the people they forgot are the people under $40,000 a year, almost 3 million workers. So tonight we'll be making sure that those workers they get their fair share too.
Tania Plibersek. Les avocats ont fait part de leurs préoccupations concernant les nouvelles sanctions du gouvernement pour les entreprises de réseaux sociaux qui diffusent des attaques terroristes et des scènes de violence. Les modifications législatives pourraient entraîner une peine de prison pour les responsables de ces entreprises s'ils n'enlevaient pas immédiatement des images d'actes terroristes. Le projet de loi fait suite à l'attaque de Christchurch diffusée en direct sur Facebook par le tireur. Le président du Conseil du droit, Arthur Mothers, a déclaré que la législation aurait dû d'abord être examinée par un comité parlementaire.
The first question would have been asked, well, what are the defences available for whistleblowers and media companies who are putting these images out there in the public interest?
Voilà le président du Conseil du droit en Australie, Scott Morrison. Le Premier ministre a indiqué qu'il lancerait dans quelques jours une commission royale d'enquête sur les abus des Australiens handicapés. Le gouvernement a mis de côté 527 millions de dollars dans le budget de cette année pour financer entièrement l'enquête qui devrait examiner les mauvais traitements infligés dans des établissements, sur les lieux de travail, dans les écoles, dans les maisons et dans la communauté. La réduction de l'aide étrangère par le gouvernement de la coalition dans le nouveau budget est critiquée par une organisation humanitaire australienne dans la région du Pacifique. Dans le nouveau budget, le montant total de l'aide à l'étranger passera de 4,16 milliards de dollars à 4,04 milliards de dollars en 2018-2019. Lucy Mann de Action Aid Australia, responsable de la politique, a déclaré à SBS que le gouvernement s'était engagé à constituer une banque d'infrastructures de 2 milliards de dollars pour le Pacifique l'an dernier.
What we'd like to see is really increasing the aid budget in line with the UN standards, which is 0.7% of GNI, and we're projected to fall to as low as 0.19% of GNI, which is gross national income, over the coming years. So it really is significant cuts that we're seeing, and it's just not possible to support the region in the way that our aid strategy should be supporting the region and supporting gender equality.
Lucy Mann de Action Aid Australia. Des millions de dollars ont été mis de côté pour défendre une voix autochtone au Parlement fédéral, malgré l'opposition du Premier ministre à cette idée. Scott Morrison admet que la proposition est une question importante, mais dit se concentrer davantage sur les suicides chez les jeunes dans les communautés autochtones. Le budget fédéral de cette année a alloué 7,3 millions de dollars à l'élaboration d'un modèle de voix autochtone. Écoutez le député libéral et co-président d'une enquête sur la question, Julian Lesser.
We want to make sure that this is a proper process and people have a chance to be heard. And what we've recommended was then, following the co-design process, there then be some decisions made about the legal form in which the bodies take effect.
Voilà le député libéral Julian Lesser. Un nouveau rapport révèle que la douleur chronique en Australie coûte 139 milliards de dollars par an à l'économie, chiffre qui devrait atteindre plus de 215 milliards de dollars d'ici 2050. Selon le rapport Pain Australia, la douleur chronique est le troisième problème de santé le plus coûteux en Australie après les maladies cardiovasculaires. Un Australien sur cinq vit avec une douleur chronique. Le taux augmente à 1 sur 3 chez les personnes de plus de 65 ans. En Algérie, la démission du président Bouteflika a été accueillie avec joie dans les rues d'Alger. Mais pour les Algériens, le combat n'est pas terminé. Reportage de Leila Berateau pour Radio France Internationale.
Le gouvernement promet en fait plus de transparence et d'objectivité. Le premier secteur concerné, c'est la presse. Le gouvernement assure que la publicité publique sera distribuée sans discrimination entre médias publics et privés. La publicité, c'était l'un des moyens pour l'État de faire pression sur les journaux, car c'était leur principale source de revenus. Deuxième secteur concerné, vous le disiez, les associations, les syndicats et les partis politiques. Le gouvernement promet d'examiner les dossiers de demande d'agréments qui ont été déposés auprès des ministères. Alors ceci, c'était des demandes de la société civile. Cependant, des annonces similaires de libéralisation des médias et des associations avaient déjà été faites en 2011. Mais la nouvelle loi avait fini par créer de nouvelles barrières pour la société civile. Donc cette première annonce du nouveau gouvernement va dans le sens de l'ouverture, mais elle va susciter la prudence des acteurs concernés. Enfin, ce soir, l'agence officielle de presse, vous le disiez, publie une lettre d'Abdelaziz Bouteflika, une lettre d'excuse où il demande pardon et s'excuse de tout manquement à l'encontre des Algériens. Il dit être fier de sa contribution et se félicite des progrès réalisés ces 20 dernières années.
Leila Berateau sur place à Alger pour RFI. L'Alliance Atlantique fête ses 70 ans à Washington. Les ministres des Affaires étrangères des 29 pays membres sont dans la capitale américaine. Reportage de Anne Corpé pour RFI.
L'Europe ne serait pas si prospère ni en paix sans les sacrifices consentis par les États-Unis. L'Alliance Atlantique est bonne pour l'Europe, entame Jens Stoltenberg devant le Congrès. Mais aussitôt, il ajoute, l'OTAN est également bonne pour les États-Unis. Elle a rendu les États-Unis plus forts et plus sûrs. La remarque est saluée par de chaleureux applaudissements. Les parlementaires américains ont à cœur de montrer leur attachement à l'Alliance Atlantique, malgré les critiques récurrentes de l'hôte de la Maison-Blanche. Le secrétaire général adresse cependant un satisfecit à Donald Trump. Le message du président sur la nécessité d'investir plus dans le budget de l'Alliance a eu un impact important, reconnaît-il. Cela rend l'OTAN plus forte. Le secrétaire général rappelle les principaux défis actuels de l'OTAN, à commencer par la menace russe, mais il évoque aussi la lutte contre le terrorisme, la situation en Afghanistan et en Syrie. Jens Stoltenberg insiste enfin sur la nécessité de se tenir prêt à faire face à l'imprévu. Nous devons être capables de réagir à tout événement inattendu. L'Alliance permet de diminuer les risques, souligne-t-il. Avant de conclure, il est bon d'avoir des amis.
Anne Corpé pour RFI. Le Brexit et la première ministre britannique Theresa May a rencontré hier le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn pour essayer de trouver une issue à la crise sur le Brexit. Explication de cette rencontre avec Anissa El-Jabri sur place à Londres pour RFI.
C'était utile, mais ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu autant de changements que je l'espérais. Ce sont les mots pas très enthousiastes de Jeremy Corbyn. Le dirigeant des travaillistes a plaidé en faveur d'un second référendum, et ça, sans effet. Alors, les discussions ne sont pas terminées. Il y a encore des échanges ce soir, ce jeudi matin. Et puis, côté conservateur, pas de grand tumulte, mais vous le disiez, ces discussions, ça ne plaît pas du tout. Un accord sur la base d'une union douanière, par exemple, les Tories y sont massivement opposés. Theresa May a en tout cas pour l'instant repris l'initiative face à un Parlement en panne. Terminer les votes indicatifs, ça s'est joué à une voix, celle du président de la Chambre des communes. 330 voix pour, 330 voix contre. John Bercow a tranché. Il n'a pas pour mission, a-t-il dit, de créer une majorité là où il n'y en a pas. Toujours aucune solution en vue donc, mais une porte fermée. Ça a désormais force de loi. Les députés ont voté contre une sortie sans accord.
Anissa El Jabri sur place à Londres pour RFI. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau affronte sa pire crise politique depuis son arrivée au pouvoir. En cause, un vaste scandale de corruption en Libye dans lequel une entreprise canadienne est soupçonnée d'être impliquée. Explication de Romain Lemaresquier pour RFI.
C'est le manque de confiance de ces deux anciennes ministres qui a finalement convaincu Justin Trudeau de prendre une telle décision. Une décision prise avec un consensus écrasant au sein du Parti libéral, selon les mots employés par le Premier ministre canadien. Jody Wilson-Raybould, ancienne ministre de la Justice, puis des anciens combattants, et Jeanne Philipeau, qui fut ministre de la Santé avant de prendre en charge le ministère des Services aux Autochtones, ont donc été expulsés de leur formation politique. Les guerres civiles au sein d'un parti font incroyablement de dommages car elles laissent croire aux Canadiens qu'on s'intéresse plus à nous-mêmes qu'à eux, a expliqué Justin Trudeau. Si Jody Wilson-Raybould a en effet refusé d'affirmer sa confiance à Justin Trudeau lors de sa comparution en février dernier devant un comité parlementaire, ce n'est pas le cas de Jeanne Philipeau qui avait réitéré cette confiance mardi dernier. Justin Trudeau reproche également à Jody Raybould le fait d'avoir procédé à des enregistrements de conversations avec un greffier, un fait inadmissible selon lui. Cette décision d'évincer deux anciennes ministres a été très critiquée par le chef de l'opposition qui dénonce la corruption de ce gouvernement. Jody Wilson-Raybould a déclaré garder la tête haute après l'annonce de cette décision, tandis que Jeanne Philipeau l'a déplorée, estimant décourageant qu'on expulse des voix discordantes.
Romain Lemaresquier pour RFI. Les États-Unis mettent en garde Cuba pour, je cite, leur présence dans les hautes sphères du Venezuela. Présence révélée par le site d'information américain Bloomberg. Précision de Dominique Piron pour RFI.
La présence de Cubains dans les hautes sphères vénézuéliennes révélée par le site d'information américain Bloomberg a fait réagir le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, sur Twitter. Les États-Unis demanderont des comptes à Cuba pour sa manipulation de la démocratie au Venezuela et pour sa participation directe à la répression de Maduro, écrit John Bolton dans un tweet. Réaction presque immédiate du ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, sur ce même réseau social. Les accusations sur une supposée ingérence cubaine au Venezuela prétendent occulter l'échec du coup d'État d'un usurpateur autoproclamé, en référence à l'opposant Juan Guaido, estime le ministre cubain, qui accuse les États-Unis de mener une guerre non conventionnelle pour asphyxier le peuple vénézuélien. De son côté, le sous-secrétaire d'État américain à l'énergie, Frank Fanon, semble se réjouir dans une interview au Nuevo Herald que les coupures d'électricité impactent la production de pétrole brut au Venezuela. Ainsi, le pays ne serait plus en mesure de fournir les 50 000 barils de pétrole quotidien à Cuba. Une solution, selon les Américains, pour faire chuter Nicolas Maduro et également pour affaiblir le régime cubain qui traverse une période économique difficile.
Dominique Piron pour RFI. La météo en Australie ce jeudi, Perth maximal de 23 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 21, Hobart 18, Canberra 22, Sydney 24, Brisbane 28, Cairns 30, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi. Les travaillistes en Australie se préparent à présenter ce soir leur budget alternatif pour 2019. Les responsables des réseaux sociaux risquent l'emprisonnement en Australie si la diffusion d'attaques terroristes se poursuit sur le web. Le Brexit et la rencontre entre la première ministre britannique Theresa May et le chef de l'opposition Jeremy Corbyn pour une solution à la crise. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.